D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Si vous le permettez, je vais vous lire un poème de ma composition. Le voici. Tagada pouette, tagada pouette, tagada pouette. Arim plom plom, arim plom plom, arim plom plom bouriri, et tragadzoum bouriri, bouriri, bouriri. Ce poème est dans une langue qui n'existe pas. Sauf que une langue qui n'existe pas, elle existe à partir du moment où on la parle, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose à comprendre? J'ai peut-être cherché à le faire en donnant à ce titre un poème latin, et ce titre c'est Magnificat. Donc peut-être qu'en le réécoutant avec ce titre-là, on comprendra une intention que j'ai voulu lui donner. Pourrait-on dire qu'une langue est un produit de l'imagination qui fait en sorte d'être comprise par plus d'une personne? Les langues sont des phénomènes de tribus, de pays. Une langue est au fond l'expression d'un pouvoir ou d'une domination ou d'un État. On a parlé latin en Europe parce que les latins, peuple violent, ont conquis territoire après territoire et pour commencer, le royaume étrusque dont la langue a été détruite après ses institutions. La défaite politique et militaire entraîne un abandon du parler au profit du parler du maître. C'est pour survivre et réussir et peut-être que ça n'est pas si grave. Quelques années plus tard, Horace disait dans une épître « La Grèce vaincue soumit son farouche vainqueur ». Il ajoutait que c'était en apportant les arts que les Grecs avaient vaincu leur vainqueur latin. Et d'ailleurs, les Romains cultivés parlaient tous le grec et le parlaient entre eux. Même si la phrase qu'on prête à Jules César au moment de sa mort est probablement inventée, elle l'est de manière plausible et il a dit à Brutus « Toi aussi mon fils » en grec. Il ne faut donc pas systématiser les rapports de langue et de pouvoir. S'il y a un domaine où la fantaisie s'insère, c'est bien là. Elle le fait sans cesse par les tentatives de création de langues nouvelles. Quel est le secret professionnel des langues imaginaires? Je reçois donc pour en parler Marina Iaghello, linguiste et auteure des Langues imaginaires aux éditions du Seuil. Marina Iaghello, pour commencer, je voudrais que nous restions un moment sur ce mot « imaginaire ». Il a peut-être une certaine ambiguïté, car au fond, toute langue procède de l'imagination. En ce moment, je parle français, vous allez me parler français, et c'est un produit de l'imagination.
Quand je pense langue imaginaire, je pense langue qui n'est pas enracinée ni dans une pratique d'une communauté linguistique, ni dans une histoire de son évolution. C'est en plus généralement une tentative individuelle, donc c'est une expression le plus souvent d'un individu qui est pris d'une espèce d'envie démiurgique de dominer, de créer une langue qui éventuellement pourra être prise en compte et adoptée par d'autres locuteurs. Mais le plus souvent, la langue imaginaire, c'est l'expression personnelle d'un individu. Alors, il y a beaucoup de motivations derrière cette création de langue. Certaines ont une visée purement ludique, d'autres s'inscrivent dans des œuvres de littérature et singulièrement dans la science-fiction et avant la science-fiction dans ce qui est son ancêtre, le voyage imaginaire, principalement au XVIIe ou XVIIIe siècle. Ensuite, nous avons des inventions dont la motivation est philosophique. Ça a été extrêmement important comme mouvement de pensée au XVIIe et au XVIIIe, dans la mesure où, pendant cette période, les philosophes, les penseurs, pensaient que la langue était, les langues naturelles d'une manière générale n'étaient pas adaptées à la pensée philosophique, n'étaient pas adaptées à des raisonnements justes, ne reflétaient pas ce qu'ils appelaient la nature des choses et devaient donc être remplacées par une langue qui aurait été un outil adéquat pour donc l'expression de la pensée philosophique. Et d'autre part, alors dans un mouvement qui a suivi, la motivation peut être tout à fait pragmatique et c'est celle qu'on retrouve chez les nombreux chercheurs qui ont voulu trouver une langue, créer une langue universelle. Et dans ce cas, bien sûr, c'est une langue qui était destinée à remplacer les langues naturelles et donc qui était destinée à avoir de très nombreux locuteurs, puisque la motivation principale, c'est de donc trouver une solution à l'incompréhension qui, d'après le mythe, nous a été imposée par la tour de Babel, la destruction de la tour de Babel.
Alors, je voudrais qu'on fasse un parcours un peu historique de ces langues imaginaires. Dans votre livre, vous nous signalez une très étrange langue imaginaire, celle qui a été inventée par Hildegard de Bingen, la fameuse mystique du XIIe siècle, et qui était sa lingua ignota per simplicem hominem. Alors, qu'est-ce que c'était que cette étrange langue qu'elle a créée, ou tenté de créer?
C'était une langue qui lui permettait de communiquer avec Dieu, le Saint-Esprit. Enfin, c'était une langue qui devait remplacer pour elle la prière et qui lui permettait d'entrer en contact avec la divinité. C'est un exemple assez isolé dans l'histoire, en particulier parce que c'est une invention qui est due à une femme.
Or, parce que d'habitude, les femmes ont peu inventé de
langues. Très peu. Les inventeurs de langues sont principalement des hommes.
Et vous donnez une explication à ça, hein?
Alors, dans mon livre, effectivement, je mets en relation, en opposition, deux paradigmes, et en particulier, à l'intérieur de ce paradigme, l'intellect et le sentiment. Les femmes se trouvent, au cours de l'histoire, plus du côté du sentiment, de l'affect, et les hommes du côté de l'intellect, y compris ceux qu'on a appelés, à juste titre, les fous littéraires, c'est-à-dire ceux qui ont inventé des théories ou des langues, de façon, comme en amateur, de façon totalement délirante et impraticable, et qui sont toujours des hommes.
Pour en revenir à Hildegard de Bingen, est-ce que, d'abord, son langage est un langage structuré, vous allez nous le dire, elle a tenté de créer un alphabet avec des mots, etc. Donc c'était différent de ce qu'on appelait le parler en langue qui était très, très contesté par la hiérarchie.
Oui,
et comment est-ce que sa langue a été prise par la hiérarchie religieuse? Est-ce qu'on le sait?
Alors,
si
ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si on le sait. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on a appelé la glossolalie religieuse. Mais là, il faut quand même distinguer deux types de phénomènes au cours de l'histoire. Il y a un phénomène qui est relié au miracle de la Pentecôte et qui concerne ce qu'on appelle la xénoglossie, c'est-à-dire la possibilité pour un locuteur qui n'a jamais appris une langue de la parler par une espèce de miracle. Donc, dans le miracle de la Pentecôte, il est fait état donc de la possibilité pour les apôtres de comprendre toutes les langues sans les avoir apprises. Et donc c'est ça qui est le fondement, en partie bien sûr mythique, de cette activité de xénoglossie qu'on retrouve tout au long de l'histoire et encore aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vraiment éteint et qui a été étudié à la fois par la psychanalyse et la linguistique, bien sûr, en tout cas à l'époque moderne, comme bien sûr une manifestation en fait tout à fait illusoire, mais néanmoins ils sont établis en tant que revendication par des personnes qui relèvent d'une part donc du mouvement pentecôtiste qui a donné naissance à plusieurs églises, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, et d'autre part le mouvement spirit. Et là, la xénoglossie la plus connue, la plus intéressante, est celle de la médium Helen Smith, qui a été étudiée par Théodore Flournoy, qui est contemporain de Freud. Donc cette femme spirit, au cours de ces périodes de transe, inventait différentes langues, qui étaient des langues parlées dans des planètes. Donc le martien, l'ultramartien, l'uranien. Elle inventait également une espèce de pseudo-sanskrit, et c'est là que Ferdinand Saussure a été appelé en consultation. Donc, elle produisait ça de façon très régulière.
Comment, vous qui êtes linguiste, vous situez-vous par rapport à ce moment où, finalement, le médical intervient? Parce qu'on peut dire que c'est des phénomènes d'hystérie, on peut dire que c'est des phénomènes...
Ah oui,
alors, comment vous pouvez
hystérie,
appliquer votre,
oui, hystérie,
votre science?
Absolument, bien sûr, hystérie, certainement. En tant que linguiste, on s'intéresse aux caractéristiques formelles, donc on s'intéresse aux corpus qui ont pu être constitués. Et donc, les phénomènes de xénoglossie revendiqués par un très grand nombre de personnes au cours de l'histoire, mais pas attestés au sens où on n'a pas de corpus, on n'a rien sur quoi on puisse travailler, on va les considérer simplement comme des attestations de ces mouvements pentecôtistes et autres qui font beaucoup de place justement aux affects.
Mais est-ce qu'on retrouve des récurrences et des
oui,
logiques?
Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans le cas Helen Smith, c'est que là, on est en présence d'un corpus, puisque toutes ces langues qu'elle a donc inventées au cours de ces séances spirites ont été notées. Par ailleurs, ce qui est attesté très fréquemment, c'est la pratique glossolalique proprement dite, qui n'est pas exactement la même chose que la xénoglossie. La xénoglossie, c'est une langue qui existe et qui est revendiquée comme étant parlée par quelqu'un qui ne l'a pas apprise. La glossolalie, c'est en fait une pratique de langue qui n'existe pas et qui serait la langue des anges ou une langue venant du Saint-Esprit ou venant pour les spirites des esprits désincarnés.
Pardon de vous interrompre, mais ça veut dire que ces langues sont des langues purement égoïstes en quelque sorte, puisqu'elles sont...
Exactement, elles sont à partir de l'ego,
voilà.
Complètement.
Mais donc voilà. Comment peuvent être elles attestées et comprises par d'autres, y compris dans les sectes?
Alors, parce que ce qui est intéressant dans la glossolalie, c'est que on n'a pas des énonciations qui reflète les deux niveaux essentiels de la langue, qui sont le niveau sémiotique, c'est-à-dire l'organisation de la langue en système, et le niveau sémantique, c'est-à-dire la possibilité de créer des énoncés qui sont dotés de sens. Seule cette deuxième facette existe dans la glossolalie. Il n'y a pas de caractère sémiotique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dégager un système, on ne peut pas trouver de permanence entre des signifiants et des signifiés, on ne peut pas trouver de récurrence de quelque chose qu'on pourrait appeler des formes linguistiques, des morphèmes pour parler linguiste.
Donc ça veut dire que c'est des gens qui étaient des imposteurs sincères d'une certaine façon.
Oui, bien sûr, d'autant que c'est une pratique qui est dans ces sectes dont nous parlons, quelque chose qui est encouragé. Alors c'est la pratique que saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, considérait comme pas vraiment très, très légitime, c'est-à-dire elle est assez critiquée par saint Paul. Il considérait que c'était justement quelque chose de trop émotionnel, que ça n'était pas, qu'il valait mieux prier dans le cadre donc des règles, des normes de l'Église, plutôt que de se laisser aller à tenir donc des discours glossolaliques.
Mais ça, c'est une question de contrôle bien compréhensible par une hiérarchie,
oui,
c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait. Saint Paul est déjà dans cette démarche. Donc, c'est un petit peu en rupture. Donc, ça caractérise, bien sûr, toujours des églises marginales par rapport aux religions principales.
Est-ce que vous diriez qu'à ce moment-là, ces phénomènes glossolaliques sont des phénomènes quasi anarchiques volontaires?
Oui, on peut dire ça, anarchiques volontaires. Oui, mais alors, pour revenir aux questions de forme, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche de la musique que de la langue. Parce que la musique, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas du tout un système comparable à la langue. Bien sûr, il y a des notes, il y a des façons de les organiser, de les combiner, mais on n'a pas de niveau sémiotique dans la mesure où il n'y a pas de récurrence et il n'y a pas de possibilité de créer à partir de deux notes, par exemple, une unité supérieure qui aurait un sens permanent. Donc on n'a pas de relation signifiant-signifié, pour parler donc encore une fois linguiste. Et par contre, la musique peut produire du sens. Et la musique produit du sens parce que précisément, elle nous affecte. Elle peut nous donner l'impression qu'elle est triste, qu'elle est flamboyante, qu'elle est dynamique. On peut avoir toutes sortes de sensations en écoutant de la musique qui produisent des effets de sens, mais qui ne produisent pas des messages, au sens où on a des messages avec la langue. Et la glossolalie, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelque chose qui est essentiellement de la musique. Ça ressemble en fait à ce qu'on a des vocalises, à ce qu'on appelle donc des phonations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde des corpus, on s'aperçoit que on a presque uniquement des voyelles. On a uniquement des syllabes ouvertes. Les syllabes ouvertes, ce sont les syllabes qui s'appuient sur une voyelle. Donc, on n'a pas du tout, par exemple, de groupe de consonnes. On a donc des choses du type la la li la lo pa pa pa, oui, ce genre de choses.
Nous allons maintenant entendre un extrait de La Guerre du Feu, le film de Jean-Jacques Hano de 1981 qui se passe dans la préhistoire. Le langage des hommes préhistoriques dans ce film a été inventé par le romancier Anthony Burgess. Marina Jagello, dans la première partie de l'émission, nous avons d'une certaine façon parlé des langues de rêverie, avec en particulier la glossolalie. Et je voudrais que maintenant nous allions vers des tentatives de langue imaginaire logique. Vous parliez dans la première partie de l'émission de l'absence de sémiotique dans la musique. Il y a, en 1862, un certain François Sudre, qui est né à Albi, qui a créé une langue, pourtant, d'après les notes de musique, qui s'appelle... Qu'est-ce que c'est que ce
sonre-sol ? Depuis les origines de ce type de phénomène, il y a toujours eu une fascination pour la musique. Pour la musique, pour la musicalité de la langue et pour la naturalité. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux concepts, le naturel et la musique, sont très fréquemment associés chez les inventeurs de langue. Et donc, la musique, en fait, ça n'est pas la musique proprement dite au sens, chez Jean-François Sudre, ça n'est pas la musique au sens où nous l'entendons.
Dites-nous un peu plus précisément quel était son système.
Alors, son système, c'est de remplacer... des syllabes par des notes. Et donc, c'est une espèce de translittération. Donc, ça permet de chanter un message, c'est-à-dire que vos syllabes sont remplacées par des notes. Alors, je ne sais pas exactement, comme personne n'a parlé sa langue, jusqu'à quel point ça pouvait fonctionner, mais c'est en fait une translittération. C'est ce qu'on appelle une passigraphie. Une passigraphie, c'est un système de codage de la langue. Et l'idée qui s'était fait jour au XVIIe et au XVIIIe, lorsque donc cette quête de langue logique, parfaite et surtout universelle s'est développée, donc l'idée c'était que ce qui rendait les langues irréductibles les unes aux autres, ce qui les rendait opaques les unes aux autres, c'était qu'il n'y avait pas un système commun qui permettait donc de représenter tous les concepts de toutes les langues de façon identique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'autre entrée ici, c'est l'entrée chinoise. Le chinois a fasciné absolument les chercheurs et les philosophes, parce que lorsque la culture chinoise a été commencé à être mieux connue des Européens, ils ont énormément donné d'importance au phénomène de la langue écrite. Donc, ils ont compris qu'en Chine, on parlait des dialectes et des langues différentes, mais que par l'écriture, on avait une unité, c'est-à-dire que tout le monde utilisait la même écriture, puisque, comme on le sait, l'écriture chinoise n'est pas du tout une écriture phonologique, elle n'est pas du tout basée sur donc des phonèmes, non plus que sur des syllabes, mais effectivement, elle renvoie au contenu même des mots. Et donc, ça permet à des locuteurs qui parlent, par exemple, le mandarin ou qui parlent un autre dialecte, par exemple, le cantonais, de se comprendre par l'intermédiaire de la langue écrite. Et donc, l'idée, c'était de trouver un système de transcription, de translittération, qui ne représenterait pas des phonèmes, des sons, mais qui représenterait des contenus. Et donc, ça serait bien sûr utilisable pour dans le monde entier. Alors, ces systèmes sont en général très frustes, et donc le sol ré sol, ça en fait partie, mais souvent c'était simplement des groupes, des lettres auxquelles on attribuait une certaine valeur, ou voire des chiffres. Donc c'était pas du tout prévu pour être parlé, de toute façon. Enfin, c'était impossible d'envisager que ça puisse être parlé.
Alors ça faisait partie, de vous le disiez, Marina Jagello, d'une tentative d'universalité ou d'un désir d'universalité, oui, qui a été très fort au XIXe siècle, puisque c'est là qu'ont été inventés, comme nous savons, le volapük et l'espéranto. Est-ce que vous diriez que c'est une des tentatives qui sont un peu démodées, qu'on ne les cherche plus de nos jours?
Alors, certainement, c'est démodé, ça ne fait aucun doute, alors qu'au XIXe siècle, ces langues, à finalité pratique, langues, non pas langue universelle, mais langue de communication, c'est assez différent.
Mais qu'il y avait un désir d'universalité, néanmoins.
D'universalité, oui, mais pour la communication pratique. Il y a au moins 400 projets répertoriés pour cette même période du XIXe et du début du XXe. Évidemment, la motivation, c'est bien sûr, alors souvent les auteurs sont des gens d'Europe de l'Est, dans des pays donc où coexistent de nombreuses langues, des pays qui sont soumis à toutes sortes de tensions politiques, ethniques. Ils cherchent à trouver un moyen de créer la paix entre les peuples, en fait. La principale motivation, en fait, c'est d'obtenir la paix. Alors, vous pensez bien qu'avec la Première Guerre mondiale, cette histoire de paix par la langue universelle, ça devient un petit peu illusoire.
Si vous voulez bien, Marina Jagello, je voudrais qu'on parle d'une chose qui me touche le plus et dont vous parlez dans votre livre, c'est les écrivains et les romanciers en tant qu'inventeurs de langue. On a cité là, on a entendu tout à l'heure un extrait de La Guerre du Feu, c'était donc Burgess, qui avait, comment ça s'est passé, qui avait collaboré, qui a écrit vraiment, qui a inventé la langue.
Oui, il a inventé. Alors Burgess aimait beaucoup effectivement l'invention linguistique. D'ailleurs, c'est une tradition anglaise bien implantée depuis le tout début du
XVIIe siècle. Oui, vous citez l'évêque Godwin dans L'Homme dans la Lune.
L'Homme dans la Lune.
Qui date de 1638, c'est ça ?
Tout à fait. Et donc, il y a beaucoup d'exemples dans Le Voyage imaginaire, également en France. Hein. Ouais. Donc, oui, et donc, il y a aussi des exemples au XIXe. Les Anglais ont été très, enfin, plus largement les Anglo-Saxons, ont créé énormément de langues dans le cadre de la science-fiction. Alors, Burgess lui-même, enfin, a créé sa langue dans Orange Mécanique, qui est simplement, en fait, un mélange de russe et d'anglais, comme vous le savez. Donc, oui, il a créé des projets de langues qui pouvaient être oralisées. Parce que, bien sûr, la grande difficulté d'une langue inventée, c'est qu'il faut qu'elle puisse, si elle doit fonctionner, il faut qu'elle puisse être oralisée. Il faut qu'on puisse, effectivement, l'utiliser.
Alors, il y a des tentatives, Marina Jagello, d'oralisation de choses qui devraient pourtant être très difficiles à prononcer. Je pense aux dadaïstes et en particulier à Kurt Schwitters, qui a composé une oursonnasse très connue.
Oui, qui est magnifique, d'ailleurs.
Qui est magnifique. Et qui partait d'ailleurs d'un poème en un mot d'un poète de 1918 de Raoul Hausmann, et dont le mot, je ne vais pas le dire, mais se composait des lettres F, M, S, B, W, T, E, umlaut, E, tréma, Z, A, tréma, U. Et à partir de ça, ça a été et ça, Schwitters, on l'a déjà entendu dans Secret professionnel, a lui-même oralisé sa chose, mais c'est une chose pour une personne, ça aussi, non?
Oui, mais donc il y a plusieurs, chanteurs, on peut dire, qui ont enregistré cette oursonate qui, effectivement, lorsqu'elle est rendue par un professionnel, est très très belle, très impressionnante.
Mais que diriez-vous de ces tentatives littéraires? Parce que même si on pense à Rabelais ou Panurge, je parle parfois aussi dans des langues inventées où Dante fait parler Satan dans la Divine Comédie, on dirait que de la part des écrivains, en tout cas, il y a une tentative de mystification dans un sens soit comique, soit sérieux, on ne sait pas très bien. Est-ce que vous pensez que les écrivains ont réellement voulu...
Ah si, ça a été... Oui. Non, il y a des exemples... Non, il y a des exemples tout à fait sérieux. C'est chez Foigny, les aventures de Jacques Sadeur, par exemple, pour la France.
Qui est-ce?
Foigny.
C'est un auteur de quelle époque?
Oui, c'est un auteur du XVIIe. Non, il y a eu des tentatives extrêmement sérieuses. On peut peut-être parler, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on peut peut-être parler quand même des seigneurs de Tolkien et des seigneurs des anneaux. Quand même qui occupe une place très très importante dans les inventions de langue, et donc y compris d'ailleurs dans les versions cinématographiques qui ont eu beaucoup de succès. Tolkien était un philologue, il connaissait extrêmement bien toutes les langues germaniques, et il a créé des langues avant même d'écrire ses livres. C'est-à-dire que, en fait, la base de ces ouvrages, qu'il s'agisse du Hobbit ou de l'Anneau, c'est la langue qu'il a inventée. Donc, il a inventé un très grand nombre de langues dont il a donné des descriptions très détaillées avec donc des dictionnaires, des grammaires, etc. Il faut noter qu'il a beaucoup de fans aujourd'hui, que grâce à Internet, il y a de très nombreux sites qui se consacrent à l'analyse et à l'utilisation des langues de Tolkien. Et donc là, c'est tout à fait, il prenait ça tout à fait au sérieux. Mais c'était un philologue qui avait de très grandes connaissances d'un très grand nombre de langues de l'Europe, mais particulièrement des langues germaniques.
Pour finir, Marina Jagello, si on doit définir de manière injuste et brièvement une langue imaginaire, est-ce que vous diriez que le secret professionnel d'une langue imaginaire, ça ne serait pas d'une certaine façon la perpétuation des contes de fées à l'âge adulte, c'est-à-dire de qu'on tente de croire que la réalité pratique doit suivre un idéal jusque dans sa manière de parler ?
Oui, je veux bien. Oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'en fait, ce qui est essentiel, c'est l'idée de puissance, d'avoir le pouvoir sur une langue ou à travers une langue. Parce que tous les chercheurs qui ont essayé de fabriquer des langues ont cherché en même temps à les populariser, à les imposer. Donc c'est l'idée que, bon, moi je suis là, j'invente une langue et je fais en sorte que un nombre aussi important que possible de personnes les adoptent.
Donc le secret, ce serait plutôt le délire de puissance ?
Moi je pense que oui, il y a un grand délire de puissance. Mais il y a aussi bien sûr un aspect ludique qui est très très important et qui est d'ailleurs d'autant plus important aujourd'hui que l'activité ludique de fabrication de langue est en plein développement. Elle est très importante. Ça, c'est grâce à Internet, parce que ce qui manque à ces langues, c'est la diffusion. Donc, jusqu'à Internet, la diffusion, elle est quand même assez difficile. Il faut convoquer des gens à des conférences, il faut populariser, il faut faire de la publicité, il faut essayer de se faire connaître. Même pour les espérantistes, ça a été assez difficile. Mais aujourd'hui, c'est tellement facile de faire connaître un projet d'invention de langue que ça suscite des vocations de façon absolument insensée. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je travaille sur ce domaine et j'ai constaté une énorme différence entre mes premières recherches dans les années 80 et puis ensuite au début des années 2000. Le domaine a totalement explosé.
C'était Secret professionnel, le 212e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel des premières traductions en langue française. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral et Anne-Catherine Lochard, prise de son Tahar Bouklifa. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.